Donc, je vous propose peut-être maintenant qu'on passe au deuxième point, qui est plutôt de se dire, bon, on voit cette espèce de tentacule et de développement considérable. Par rapport à ça, quelles sont les failles de notre système? Parce que, manifestement, on a l'impression que, en dépit des annonces régulières, on a pris tant de tonnes, etc. On a l'impression que on est débordé par la situation. On n'est hélas pas les seuls, parce qu'il suffirait de copier les autres. Mais comment vous faites l'analyse du... D'ailleurs, le rapport y consacre pas mal de temps. Les failles de notre système, quelles sont-elles, et notamment les plus importantes?
Alors, je crois que d'abord, la société française et ses représentants politiques n'a pas choisi. C'est-à-dire qu'on a un système de prohibition qui ne fonctionne pas. La prohibition ne fonctionne pas.
Oui.
Et c'est, Alain Bauer le dit bien, il dit le trafic de stupéfiants, normalement, quand on lutte contre son organisation, on a moins de produits, plus cher, plus difficile à trouver. Or, en France, on a plus de produits. Il est moins cher et il est facile à trouver. Donc, ça ne marche pas du tout. Et dans cette lutte contre le trafic et la consommation, on a une ambivalence, me semble-t-il, sur la place de la consommation dans le pays. C'est-à-dire qu'on a une prohibition légale, mais, comme nous le disent les gendarmes ou les policiers, vous savez, tout le monde fume, hein, la mère de famille, l'étudiant, le chef d'entreprise. Et d'ailleurs, dans cette consommation, je pense notamment à la cocaïne, qui est quand même le fait le plus important du moment, en attendant, malheureusement, peut-être,
les
drogues de synthèse. Mais sur la cocaïne, ce qu'on observe, c'est que il n'y a pas que de la consommation récréative. Il y a aussi des gens pour qui c'est une béquille dans des métiers très durs. On connaît les marins-pêcheurs, les chauffeurs routiers, l'hôtellerie, la restauration. Et donc, il y a aussi cet aspect-là qui est à prendre en compte. Donc, on n'a pas choisi contre qui on se battait. Si on se bat contre les trafiquants ou les consommateurs, on a un outil répressif, par exemple avec les AFD, amende forfaitaire délictuelle, où on met 200 balles à 200 euros à un consommateur. Mais c'est un peu comme le permis à points. Bon, vous prenez un point, mais ça ne vous empêche pas de recommencer. Et du coup, c'est assez faiblement dissuasif. C'est mon avis et c'est un débat qu'on peut avoir. Mais je pense qu'on n'a pas choisi non plus, quand on s'intéresse aux trafiquants, si on tapait le bas du spectre, le haut du spectre. Et dans le gouvernement précédent, on avait, je le raconte souvent, mais les trois auditions de ministres. Bruno Le Maire nous évoque le terrorisme ayant un lien avec le narcotrafic
sans aucune preuve.
Mmh. Et par ailleurs, il nous dit que c'est très très grave, mais alors qu'il y a des outils, hein, le ministère de l'économie et des finances, pas de solution. Darmanin dit l'investigation, finalement, ça sert à rien. Ça nuit même à la lutte contre le narcotrafic. Il faut taper en bas des tours et dans les cités par les opérations Placenet, genre dire un mot. Et puis, Éric Dupond-Moretti lui dit pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est le haut du spectre, c'est les repentis, un parquet national anti-criminalité organisé et de nouveaux outils pour la procédure pénale. Donc, en fait, on n'a pas choisi. Et autant sur le terrorisme, on a su faire des progrès, on a fait des progrès objectifs parce que on a aligné tout le monde, on a des vrais pilotes, on a des vrais patrons. Autant là, on a des administrations qui ne parlent pas entre elles, Bercy, Beauvau, ministère de la Chancellerie, ministère de la Justice, et au sein des administrations, des manques criants de collaboration entre le pénitentiaire, le judiciaire, entre le judiciaire et le renseignement, entre le judiciaire et le répressif. Si bien qu'on a des événements comme Incarville, c'est le 14 mai, la libération violente de Mohamed Amra Lamouche. Et quand on lit le rapport de l'inspection générale de la justice, on nous dit, bon, bah, finalement, personne dans la pénitentiaire savait que ce type était particulièrement dangereux. Et ça montre toutes les failles de notre organisation collective. Donc ça, je pense que vraiment, c'est l'économie générale de la réponse de la puissance publique face au narcotrafic, elle a repensé. Ensuite, il y a des questions qui tiennent à l'insécurité juridique dans laquelle sont un certain nombre d'acteurs de la répression. On l'a dit, on a une réponse qui est nationale contre un phénomène qui est planétaire, avec des acteurs qui sont des vrais professionnels, des corps de métier, les logisticiens, les brokers, les tueurs, les chimistes. Voilà, tout ça est très, très organisé. Et nous, on a une réponse qui est parfois un peu européenne sur certains aspects, je pense à l'Alliance des ports et le travail sur la question portuaire, mais souvent on a une réponse nationale, si bien que le chef de réseau qui est à Dubaï, qui a ses avoirs criminels à Dubaï, il vit tranquille, alors que on a des policiers qui sont au-delà des cités en train d'aller démanteler des réseaux et d'attraper quelques lampistes, qui sont souvent des gamins, parfois de plus en plus des mineurs non accompagnés, pour lesquels la réponse pénale est très dégradée, très difficile, qui ne connaissent rien des réseaux. Donc c'est Sisyphe avec son rocher, c'est-à-dire qu'on fait du petit boulot, parce qu'on n'a pas choisi de taper la tête, et dans le même temps, il y a une réponse qui est dégradée aussi, parce que l'investigation dans la police, elle a été abîmée par la réforme de la police judiciaire. Il y avait déjà une désaffection d'investigation qui a été accrue par cette réforme, si bien que si on veut aller chercher les avoirs criminels, les confisquer puis les saisir, ou les saisir puis les confisquer plutôt, eh ben on n'y arrivera pas sans avoir des professionnels de l'investigation économique et financière que nous n'avons pas. Donc en fait, ben on tape dans le tas, on tape dans la fourmilière, et d'ailleurs parfois en abîmant des enquêtes au long cours. Et finalement, on n'arrive rien à résoudre. Et donc, c'est un peu cette désorganisation et cette absence de stratégie que je crois nous avons relevé principalement dans notre commission d'enquête.
Tu peux peut-être rebondir parce que oui. On en avait parlé off toutes les deux et oui, c'était aussi ton.
Je ne vais pas commencer par un gros mot, mais je commence quand même par la prévention. La prévention des addictions, finalement. Sur laquelle on a énormément de progrès à faire. Je prends un seul exemple, la médecine scolaire a été démantelée depuis, de manière...
systématique.
Systématique, au canon, depuis, je dirais, 40 ou 50 ans. C'est le dernier qui a fait quelque chose pour la médecine scolaire, ça doit être Jacques Ralite. J'exagère peut-être, mais voilà. Hein, bon. C'est quand même un très très gros souci. Je pense que la loi de 70 est totalement obsolète, pour la bonne et simple raison, déjà, que, outre le fait que la prohibition est un échec, en termes même de récidive, si on regarde les choses, et en termes de chiffres, on les a cités, c'est un échec parce que cette loi, finalement, fonctionne sur une hypocrisie. On traite tous les produits stupéfiants qui sont énumérés de la même manière. Ça, c'est la loi. Évidemment que les professionnels du droit que nous sommes ne traitent pas tous les produits de la même manière. On ne va pas traiter le consommateur de cannabis comme le trafiquant de cocaïne. Je veux dire, c'est une évidence. Et néanmoins, dans la loi 70, toutes les drogues sont mises sur le même, au même niveau. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une hypocrisie avec laquelle il faut rompre. Moi, je pense... Mais je suis depuis longtemps acquise à la cause d'une légalisation, j'ai bien dit d'une légalisation, sur le cannabis, c'est-à-dire que l'État reprenne la main ou prenne la main à la fois sur la production et sur la distribution du cannabis.
Et la qualité, hein, oui.
Voilà, c'est ça. Ce qui déchargerait du cannabis les policiers et la justice. De procédures qui sont ni faites ni à faire et qui n'ont aucun intérêt, mais aucun. Voilà. Et aucun intérêt, notamment pour lutter contre la toxicomanie, qui était un réel problème de santé publique. Hein. C'est pour ça que je parlais de la santé scolaire tout à l'heure. C'est un réel problème, y compris pour le cannabis. Je veux dire, tout le monde doit savoir que c'est pas très bon pour la santé, et que c'est même très mauvais pour la santé, que de consommer du cannabis, et notamment du cannabis à outrance, et notamment sur des jeunes
enfants,
cerveaux.
Ouais, des enfants,
des jeunes cerveaux
moins de 20 ans.
Pas encore adultes.
Avec une molécule qui a augmenté sa dangerosité
par 10 ou 12. Des produits qui sont très mauvais, et qui sont en grande partie maintenant des produits de synthèse, qui sont fabriqués avec du cannabis auquel on a ajouté des morceaux de pneus, des sortes d'acides, des produits eux-mêmes de synthèse qui sont vendus dans le cannabis aux consommateurs et qui sont là pour finalement rendre plus addictif le produit.
Les, oui.
Je ne vais pas faire de parallèle douteux, mais enfin, des grands groupes industriels depuis longtemps se sont aperçus qu'il y avait un effet addictif du sucre. par exemple. Hein. Donc, on met un peu plus de sucre, quand il faudrait en mettre moins, et ainsi de suite. Et ben là, c'est pareil. Hein. Je veux dire, on parlait tout à l'heure de ces gens, ces grands trafiquants qui sont finalement, dans leur genre, des capitalistes de génie. Hein. Bon, bah, effectivement, ils mettent dans leurs produits tout un tas de choses qui sont extrêmement mauvaises pour la santé, et d'autant plus mauvaises pour la santé, qu'elles appellent de plus en plus
la consommation
et la surconsommation. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est pour le cannabis. Vraiment, il faudrait penser, alors, on l'a dit...
Moi, je dis depuis longtemps, une seita du cannabis. Oui, mais ce débat-là, peut-être, je vous propose qu'on n'y aille pas beaucoup plus en avant, parce qu'on y consacrera un débat spécifique, en particulier en comparant les expériences des autres pays. Tu me dis que c'est souvent le Canada qui te paraît un des endroits où c'est le Québec, où c'est le plus intéressant. Enfin bon, mais l'Allemagne je propose qu'on n'aille pas au-delà.
10 ans.
C'est ça.
À faire leur loi.
De toute façon, c'est pas évident de le faire du jour au lendemain.
Alors, si on en vient à la répression, parce que c'était effectivement plutôt l'objet du rapport en question, moi je mettrais d'abord l'accent sur la reconstruction, je pèse mes mots, sur la reconstruction d'une police judiciaire qui a été très abîmée, notamment ces 3 dernières années. Je dis notamment parce que finalement, ça fait un petit moment maintenant que ces métiers-là ne sont plus attractifs pour les policiers, et ça n'est pas normal. Parce que ça devrait être passionnant pour les policiers. Ça devrait être passionnant.
Mais les conditions doivent être aussi difficiles.
On arrive à des gens qui sont vraiment méchants, si je puis dire. Bon, c'est quand même plus exaltant, on va dire,
que le petit délinquant
s'en prendre au bas des tours. Bon. Et néanmoins, on voit quand même une désaffection, et je comprends très bien pourquoi. On nie leur spécialité, leur spécialisation. On ne les met pas du tout, on ne les valorise pas du tout. On n'a pas valorisé même leur salaire, d'ailleurs, ce qui devrait être fait. Moi, si je vais au bout, je pense que les policiers de la police judiciaire devraient être, sur la base du volontariat, bien sûr, détachés auprès des juridictions, et pour 3 ans renouvelables, par exemple. Et comme ils doivent exécuter les ordres, j'ai été juge d'instruction, ils doivent exécuter les ordres des magistrats, je pense qu'il y aurait des volontaires s'il y a une revalorisation de leur fonction, de leur métier, de leurs moyens techniques, hein, parce que effectivement tout est à refaire finalement. Hein. Aujourd'hui, on a territorialisé au niveau de la préfecture.
Alors que tout est internationalisé, c'est effarant. Quoi.
Voilà, c'est effarant, exactement.
Donc, alors peut-être sur ce constat là des failles. Il y a peut-être aussi un élément qui est la faille dans la lutte contre le blanchiment. Est-ce que là-dessus, Jérôme, tu peux préciser l'analyse que vous faites ?
Alors oui, si tu me permets,
oui, tu vas réagir.
Revenir juste sur un point. Je pense que vraiment, ce que pour compléter le tableau, on a un constat de notre échec collectif. Qui d'ailleurs ne tient pas qu'au dernier gouvernement,
non,
qui tient à la misère du service public.
Oui.
Parce que nous, ce qu'on a vu, c'est la première ligne des magistrats, des policiers, des gendarmes, des douaniers, qui sont en souffrance. Et les maires, d'ailleurs. Les maires, il faudra peut-être qu'on se dise un mot de ce qui est attendu des maires dans le débat public, comme s'ils allaient à eux,
Tout
seuls, régler un trafic planétaire avec leurs petites mains, un policier municipal armé et 3 caméras dans un coin. Enfin, c'est presque une plaisanterie de poser le débat dans ces termes-là. Et c'est pourtant des débats assez récents. Sur le blanchiment, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord ce qui vient d'être dit sur la désaffection de la fonction d'investigation, avec un sujet tout bête, hein, mais qui est celui des cycles horaires des policiers. C'est pas très intéressant d'être corvéable à merci, de pouvoir faire 4 jours d'affilée des planques, des filatures, alors que quand on est sur la voie publique, on a un cycle horaire assez confortable et qu'on est presque aussi bien payé ou à très peu de choses près. Donc il y a ça. Il y a un problème de compétences. Parce que on n'a pas les compétences en écofi, en économique, en recherche économique et financière. Alors les lois récentes, et notamment sur les saisies et confiscations, sur le rôle de l'AGRASC, qui est l'agence qui gère les saisies et confiscations, progressent et on a de plus en plus d'outils. Mais ces lois, elles restent muettes s'il n'y a pas un bras armé du côté de la police, et on n'a pas ce bras armé. Il y a un sujet qui tient. Aussi, donc, enfin, ce que je dis à l'instant, c'est une question d'effectif. Hein. Je cite un propos de préfet qui me dit, bord de la Méditerranée, qui dit j'ai 700 policiers, 20 sur le narco, 0 sur l'économique et le financier. Donc, au moment où on dit qu'il faut saisir tout de suite les avoirs criminels, les empêcher d'être blanchis à l'étranger ou réinvestis dans l'économie locale, c'est complètement contradictoire de n'avoir aucune spécialité. Donc il y a ce sujet-là. Après, il y a un sujet aussi de spécialisation de notre outil pénal, peut-être quelque chose d'un petit peu plus performant en termes de circulation d'informations, de priorité nationale, de capacité à une juridiction nationale à créer un PNACO, parquet national anti-criminalité organisée, ou un parquet national anti-stupéfiant, de pouvoir se saisir de certaines affaires pour avoir une vision cohérente. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ça vient d'être dit, mais je le répète, on a départementalisé la police.
Mais c'est stupide.
Le crime est planétaire. Et nous, on a départementalisé la police avec, nous, Gérald Darmanin, avec en plus des policiers qui sont sous le contrôle du préfet, qui dépend lui-même du ministère de l'Intérieur. Donc du coup, ce qui tue l'investigation, c'est à la fois l'absence de moyens, les cycles horaires, l'absence d'organisation et la politique du chiffre. Donc,
oui, puis d'après ce que j'avais compris dans les débats, c'est que quand le préfet avait besoin de policiers pour maintien de l'ordre, enfin je dis pas qu'ils vont tous au bord des manifs, mais pour d'autres missions que l'investigation, ils pouvaient être réquisitionnés pour ça. Enfin bon. Or, on voit bien que, et là c'est un peu en corollaire avec ce que disait sur Gérald Darmanin et Place Nette. C'est-à-dire, quelque part, il y a valoriser ce qui est visible et forcément ce qui est efficace. C'était du genre, faut qu'on voit du bleu dans la rue. Oui, mais enfin, si le bleu n'est pas... voilà. Donc ça me paraît un point important. Et alors, sur le blanchiment, est-ce que les lois telles qu'elles sont assez efficientes pour prendre, je peux dire, au collet, les opérations de blanchiment?
Non, sans doute pas. D'ailleurs, on fait des propositions en la matière dans notre... Dans la proposition de loi qu'on a déposée après la commission d'enquête, qui était déposée en juillet, et sur le blanchiment, le meilleur exemple de l'inefficacité de notre dispositif, c'est que les opérations Place Nette, elles ont été très peu efficientes, c'est-à-dire une débauche de moyens, avec beaucoup d'effectifs impliqués. Parfois, on nous a dit que c'était préjudiciarisé. Le résultat des courses, c'est qu'on a chopé quelques gamins, parfois quelques cadres, des armes, du stupéfiant, un peu, mais là encore, c'est pas massif, et l'argent, on n'en voit jamais la couleur. Et d'ailleurs, les policiers de terrain nous le disent, l'argent, on ne le voit jamais, parce qu'il est tout de suite évacué, et donc tout de suite réinvesti, tout de suite blanchi. Et donc, nous, les propositions qu'on fait, c'est déjà d'aller chercher l'argent... à l'étranger, donc de mettre l'accent sur la coopération internationale. Les gars qui sont à Dubaï, qu'on n'arrive pas à extrader, alors qu'on sait qu'ils sont tête de réseau, c'est une difficulté. On a le même problème avec les pays du Maghreb, notamment le Maroc, ou certaines villes du sud de l'Espagne, où qui sont des lieux refuges pour les trafiquants. On a un sujet d'identification de capteurs dans la société. Et nous, on propose d'avoir un outil nouveau qui s'appelle l'injonction pour richesse inexpliquée, qui fait d'ailleurs du mal à la société, parce que souvent, c'est cette richesse démonstrative qui fait dire « Ah ben, voyez, nous, on paye nos impôts, on bosse. » Et puis, eux, entre guillemets, ils roulent en Mercedes, immatriculés en Pologne. Donc, injonction pour richesse inexpliquée, ce sera un outil fiscal qui permettrait, en amont d'une procédure judiciaire, d'aller vérifier pourquoi des gens qui ont un travail ou n'en ont pas ont visiblement des signes extérieurs de richesse. Voilà, un train de vie qui est totalement déconnecté de la réalité, exorbitant de leur situation réelle. Et puis, il y a quelques éléments droit pénal et de procédure pénale sur lesquelles on dit qu'il faut aller, qui sont assez variés. On a deux sujets qui seront assez polémiques dans le débat qui arrive. C'est la question des nullités. On m'a transmis encore ce matin un article de la Provence où on voit que plusieurs types, plusieurs sales types, hein, des criminels ont été libérés dans les derniers mois.
Pour nullité de la procédure.
À cause des nullités. Et des nullités qui sont provoquées de manière dolosive par des avocats dont c'est le métier, bien rémunéré avec l'argent du trafic, hein, ces choses qui sont très difficiles à démontrer, mais c'est un point sans doute de crispation dans le débat, mais il faut poser la question quand même de ces nullités. Et puis il y a un sujet aussi, c'est dans cette asymétrie, et là je pense que c'est un débat qu'on aura aussi, dans cette asymétrie, nous on propose un dossier coffre qui va faire peut-être rêver, qui est un dossier distinct du dossier de la procédure, où puissent être enregistrées les techniques spéciales d'enquête qui sont organisées, parce que le problème, c'est que souvent, dans l'instruction, les techniques spéciales d'enquête, elles sont connues, épluchées par les avocats, et les policiers nous disent, quand nous, on arrive à peu près à matcher, à faire jeu égal avec les criminels, eh ben, l'analyse précise des dossiers d'instruction dévoile toutes nos cartouches, toutes nos stratégies, et on est un peu plombé. Alors, c'est une dimension un peu provocation dans notre proposition, mais qui permet quand même de souligner l'asymétrie telle qu'elle se
qui est quand même très ressentie par les citoyens.
Alors, tu termines, Jérôme, évidemment avec l'aspect avec lequel je suis peut-être la plus sceptique, on va dire ça comme ça, parce que je suis gentille aujourd'hui. Pour rester sérieuse, moi je pense que d'abord il faut que les gens sachent qu'il y a déjà beaucoup de dispositifs exorbitants du droit commun contre la criminalité organisée, la délinquance organisée. Exemple, c'est pas 48 heures de garde à vue maximum, c'est 96 heures. C'est 4 jours et 4 nuits, hein, ça donne un peu plus de temps quand même. Je pense aussi que, pour reprendre une polémique récente lancée par l'actuel ministre de l'Intérieur, que l'état de droit, hein, parce que c'est bien ça qu'il a dit, il n'a pas dit l'état du droit, que l'état de droit, oui, pour moi, est quelque chose de sacré. Et que donc, les droits de la défense, ça fait partie de l'état de droit et qu'il n'y a pas de procédure secrète en France. Évidemment, il y a le secret d'instruction, c'est autre chose, le secret de l'enquête, c'est autre chose, mais il n'y a pas de double dossier qui ne soit pas accessible aux avocats, etc., etc. Non, parce que, d'abord, ça nous mettrait totalement au banc, quand même, des démocraties de l'Union européenne, par exemple. Mais je pense que si, en revanche, on s'attache à la question de l'Union européenne, restons juste sur l'Union européenne. La question de la libéralisation des mouvements de capitaux, évidemment, peut-être qu'on pourrait quand même poser cette question-là au niveau européen, en disant, mais écoutez, il y a manifestement des pays qui ne jouent pas de jeu et qui facilitent l'évasion des fric qui a été aussi mal acquis. Tu as parlé de la Pologne. La Pologne, je pense, n'est pas exemplaire. C'est un pays qui s'oppose à peu près par principe à tout arraisonnement des bateaux qui battent pavillon polonais et autres et qui sont dans ces eaux territoriales, ce qui ne facilite pas non plus les saisies. Bref. Les gros trafiquants, pas les petits, les gros trafiquants le savent. Ils savent exactement où sont les failles. Hein. Tu as parlé effectivement d'un certain nombre d'autres pays. On peut penser à un certain nombre de pays qui sont des paradis fiscaux au sein de l'Union européenne.
Bien sûr.
Hein. Et ça, c'est la voie d'entrée principale hein, pour les trafiquants, pour planquer leur argent. Voilà. Ils savent très bien comment on dit maintenant optimiser, c'est ça, hein, fiscalement. Enfin, je veux dire, ce sont des gens qui sont extrêmement bien organisés de ce point de vue-là. Moi, d'un point de vue judiciaire, bon, qui a un parquet national, stup, bon, ça m'empêchera pas de dormir. En revanche, on ne touche pas, de mon point de vue, au droit de la défense. Ça, c'est ça fait partie des éléments sacrés, si je puis dire, pour reprendre le terme du ministre de l'Intérieur. La question des avoirs, la saisie des avoirs criminels, ça c'est très important parce que c'est l'un des aspects où on a fait des progrès quand même en France. Hein. La GRASC, hein, l'agence qui s'occupe de cela sous l'autorité du ministère de la Justice, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne maintenant, qui fonctionne bien. C'est vraiment une aide aux magistrats. Moi, j'ai pu saisir des appartements, j'ai pu saisir des immeubles entiers en tant que juge d'instruction, avec l'aide de la GRASC. Hein. Donc, c'est tout à fait important et précieux. Il faut continuer. Je crois qu'il y a eu une loi récente en 2024 encore. Oui. Il faut continuer à aller dans cette direction-là. Tu as parlé des douaniers. Effectivement, c'est aussi très important de renforcer les services de douane. Pour dire quand même quelques mots sur la GRASC, par exemple, les résultats, hein, c'est quand même en 2023, 1,4 milliard d'euros qui ont été saisis. Les avoirs criminels. C'est pas que des stupes, c'est beaucoup des stupes. Voilà. Et ensuite, c'est dispatché pour, notamment, dans la lutte pour la prévention contre les conduites addictives, hein, la 1000 DK, comme on dit. Hein. Donc, c'est intéressant. La Caisse des dépôts et consignations, ils ont un compte hein, qui est créditeur de 2,2 milliards d'euros au 31 décembre 2023. C'est pas mal. Hein. Voilà. Donc, on ne doit pas s'auto-flageller en permanence. Et je terminerai par une chose, c'est que, justement, on dit quand on se compare, quand on se regarde, on se désole, et quand on se compare, on se console. Bon, eh ben si on se compare, par exemple, aux États-Unis, où là, c'est absolument épouvantable, parce qu'ils vivent une épidémie, hein, notamment due aux opiacés, qui est une hécatombe. Une hécatombe humaine, parce que on a à la fois des décès en expansion fantastique, mais on a aussi chez eux des zombies, hein, en très, très, très grand nombre.
Pour être franche, il y a certains endroits de nos outre-mer où on a mécanismes très comparables.
Si c'est le cas chez eux, l'analyse a été faite par des gens quand même extrêmement sérieux aux États-Unis, ils en ont aussi, hein, que c'était beaucoup lié au fait que le système de santé avait poussé à cela. Parce que les opiacés, c'est l'épidémie des opiacés là-bas, hein. Les opioïdes dont ils meurent en nombre, ils sont prescrits. Au départ, ils sont prescrits par des médecins. Et notamment dans le cas de cancer, contre les douleurs liées à certains cancers, etc. C'est prescrit parce que c'est moins cher que d'autres produits qui... le fentanyl, je ne vais pas faire de pub hein, pour ce truc-là, mais enfin, tout le monde connaît maintenant ce produit.
En France, elle n'est pas encore très présente.
On dit que c'est 50 fois plus dangereux que l'héroïne.
Oui.
D'accord ? Donc, ça fait des zombies, ça fait des gens dont les muscles sont attaqués, sont bouffés.
Mais nous, on voit aussi les gens du crack, les gens qui sont touchés par le crack.
Tout à fait, bien sûr qu'on n'est pas du tout à l'abri. Mmh. Mais il faut quand même se dire que notre sécu, telle qu'elle existe, elle est perfectible, elle doit être renforcée, elle doit être défendue. Et
c'est vrai que les pratiques médicales doivent quand même être attentives à ça.
Les pratiques médicales aux États-Unis doivent tenir compte du fait que les plus pauvres
ne peuvent pas payer.
Mmh. Et notamment toute une partie aussi des classes moyennes, déclassées, hein, aux États-Unis, qui tombent dans les opioïdes par le biais d'abord de prescriptions médicales.
Ok. Donc, là, on voit un peu les failles du système. Je voudrais quand même dire qu'à mon avis, les Français ont bien perçu que les opérations PlaceNet étaient quand même qu'une illusion de solution. Il me semble quand même que, tendanciellement, même si, quand on habite dans un quartier où on vous libère des tensions pendant un moment, faut reconnaître que c'est toujours ça de prix, mais... parfois, ça revient assez vite. Hein. Et il faut quand même... l'autre chose, c'est quand même le sentiment d'impuissance, de la puissance publique devant un problème majeur. Et ça sape notre démocratie. C'est vraiment des sujets où on devrait quand même pouvoir... Après, on peut être d'accord sur le coffre ou pas le coffre, hein, sur tel ou tel détail, mais la mobilisation républicaine devrait quand même pouvoir être assez large. Et dans les périodes où on nous dit, faut faire des compromis autres, c'est pas le sujet du truc, au moins ces sujets-là, où je pense qu'il y a quand même une très très large majorité des Français qui peut comprendre les choix et les approuver, il faudrait pas trop tarder.